Maintenant, on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Faut que ça s'arrête.
Avertissement. Cette émission aborde le thème des violences sexuelles. Cet épisode contient le témoignage d'une personne victime de violences intrafamiliales et psychologiques.
J'avais pris l'habitude de lire le journal avant d'aller au travail, quand, entre une énième condamnation d'une célébrité et l'horoscope, un article attira mon attention. Un titre, « Les violences conjugales, une triste routine judiciaire ». Il était question des violences intrafamiliales et de différents procès ayant eu lieu. À la lecture, j'ai eu envie de pleurer. Pas de tristesse, non, mais de colère. Je vais vous faire une toute petite confidence. En réalité, en le lisant, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour mes collègues, pour mes sœurs, pour ma mère, pour mes futurs enfants. Il n'y a pas si longtemps, une grande femme nous disait qu'elle trouvait que le temps passant, nous vivions de plus en plus facilement ensemble. Simone, j'ai peur que tu te trompes. Je suis effrayée à l'idée qu'ensemble soit pour toujours synonyme de combat et de souffrance. À vrai dire, j'ai eu peur même à la lecture du titre. Triste, mais quel euphémisme! Quelle façon si douce de parler d'un fait si grave, parce qu'à force de répétition, cela devient presque banal. Non, ce n'est pas triste, c'est terrible! Pourquoi parlons-nous de crimes passionnels? Pourquoi c'est à la victime de s'expliquer? Pourquoi c'est à elle de prouver? Je fus coupée par mon arrivée imminente au travail. Je me prépare pour la journée qui commence par un enfant. Je vous avoue que je ne sais pas exactement comment commencer. C'est compliqué pour moi de vous en parler. Je me souviens pas d'une fois où mon père nous a traités normalement. Quand il ne tape pas, il crie. Quand il ne crie pas, il part. Une fois, il est parti pendant une semaine. Et à son retour, il fallait faire comme si rien ne s'était passé. Parfois, il me prive de dîner. Il dit que je suis trop grosse, que si je mange trop, je ressemblerai à un cochon. Je suis fatiguée de ramasser les verres cassés, d'essuyer les larmes de ma mère et de protéger mes frères et sœurs. Je n'en peux plus. Je sais que cette situation doit cesser. Ce que je demande, c'est qu'il n'ait plus de droit sur moi. Vous savez, je l'aime, ça reste mon père. Mais j'ai l'impression que si je reste, je vais en mourir. J'ai peur quand j'y suis, c'est insoutenable. J'écoute les dires de cet enfant qui, plutôt que d'être à l'école, se retrouve face à un juge et moi. Je le regarde attentivement et me rends compte qu'il ne rayonne pas comme un enfant le devrait. Son enfance est partie en fumée. Dans ses yeux, je me revois enfant. Je me revois sur le sol de la salle de bain, les mains sur les oreilles pendant que mes parents criaient. Je me revois cacher l'alcoolisme de mon père à mes frères. Je le revois lui, les mains sur son cou, à elle. Je la revois bleue, puis la lumière doucement quitter ses yeux. Cela me rappelle la raison de mon choix d'orientation. Je m'étais juré que je changerais la donne. Mais dans cet océan de procès, je me sens coulée, impuissante face à la masse. J'ai choisi d'être avocate pour porter la parole de toutes ces femmes et ces enfants. Ça fait 15 ans que je suis avocate. Et je vous assure que les excuses données par les bourreaux sont plus risibles les unes que les autres. Ah non, mais c'est pas ma faute, hein. C'est elle qui marque facilement. Mais c'est elle qui est folle. Elle s'est tapée toute seule contre les murs. Elle m'a menacée. J'ai été obligée de me défendre. J'aimerais vous en parler sur un ton léger. Que ma présence face à vous soit pour évoquer de jolies choses. Mais les sujets dont je vous parle sont graves. Ils sont sales. Salis par ces personnes abominables. À la machine à café, j'entends mes collègues parler. Ils viennent de traiter des causes plus graves les unes que les autres. Mais dans ce milieu où la violence est omniprésente, j'ai l'impression qu'elle ne les choque plus tant que ça. Un peu comme un croque-mort s'habitue à la mort. J'imagine qu'à l'échelle d'une société, ce doit être la même chose, après tout. La violence est décriée, certes, mais il suffit d'allumer la télévision pour voir des affaires sordides d'enfants tués dans une machine à laver. Lorsque plus tôt je parlais de banalité, c'est à celle-ci que je faisais référence. On nous parle de crimes comme de la météo. Sur la côte ouest, une hausse des violences conjugales avec un léger vent de féminicide venant du nord. Mais quelle affreuse manière d'évoquer des faits si sombres! On a l'habitude de traiter le Moyen-Âge avec dédain. Mais quand je vois des affaires comme celle de Gisèle Pellicot, de Valérie Bacot, j'ai l'impression que le Moyen-Âge, c'était hier et que finalement, on n'a pas tant évolué. Et dans ces conditions, la révolution reste à faire. Alors à l'humanité entière, j'implore, levez le poing. Pas seulement le 25 novembre, mais tous les jours. Levez le poing pour permettre à vos enfants d'aimer. D'aimer sans compter, sans se méfier. Parce que qu'y a-t-il de pire que de voir dans l'être aimé un danger ?
Le discours que vous venez d'entendre, c'est Anaïs, jeune lycéenne d'Amiens, qui l'a écrit. Elle l'a prononcé devant une salle bondée à la cour d'appel d'Amiens, où je l'ai rencontrée pour la première fois. C'était à l'occasion de la finale du concours d'éloquence organisé par le réseau départemental de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le thème, les violences intrafamiliales. Grâce à la force de son discours et de son engagement qui semble émaner d'elle, Anaïs remporte le concours dans sa catégorie. L'occasion pour moi de l'aborder et de lui proposer de venir à la radio pour lire à nos auditeurs et auditrices son texte. Ravie, elle accepte et on se donne rendez-vous un vendredi soir après les cours. Pour commencer simplement, je lui demande comment elle a fait pour écrire son discours et ce qui l'a inspiré.
On avait comme support un article du Courrier Picard dont je me suis inspirée, mais relativement. Après, c'est vraiment une trame. Enfin, je veux dire, c'était... Là, j'ai pris le parti d'incarner, on va dire, quelqu'un. À ceux d'avant, j'incarnais aussi, mais au tout premier nom, j'étais un peu le porte-parole des violences conjugales. Mais là, j'ai pris le parti d'incarner quelqu'un parce que je me suis dit que c'était peut-être plus... C'est-à-dire que si je donnais des chiffres, des choses comme ça, bon, forcément, ça allait choquer. Mais si... En face de nous, on a la sensation d'avoir quelqu'un qui raconte son vécu et qui en a souffert. Bien, peut-être que ça peut être plus percutant pour l'auditoire. J'ai incarné une avocate qui était vraiment perturbée par tous ces faits de violence qu'elle voyait au quotidien et surtout la manière dont on en parlait et qui du coup expliquait le fait que eh bien, elle avait choisi d'être avocate justement parce qu'elle en avait vécu et parce que du coup, ça, il y a un désir dans le personnage, on va dire, de faire changer les choses. Et en fait, eh bien, à la lecture de l'article, l'avocate, elle se rend compte que, elle a beau avoir ce désir-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les violences conjugales sont quelque chose qui est énorme, qu'on en parle beaucoup, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça à faire bouger, quoi. Forcément, je me suis inspirée de mon avis à moi, de mon ressenti personnel, parce que je trouve qu'on en parle beaucoup des violences conjugales, mais j'ai l'impression que, il y a un peu quelque chose qui se dédramatise. Et du coup, je trouve que c'est hyper dur, parce qu'on en parle énormément, on parle beaucoup de femmes qui se font frapper, d'enfants qui se font violer, qui se font enfermer dans des caves, etc. Mais en fait, c'est tellement violent au bout d'un moment, ça choque, mais plus autant que ce que ça devrait. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est pas normal et que c'est pas parce que on entre guillemets s'y habitue aux témoignages comme ça qu'il faut les accepter, qu'il faut se dire en les voyant, oh là là, encore une cinquième histoire.
Lynn Rodien, éducatrice spécialisée au sein de l'association AGENA, a accepté de répondre à mes questions et de revenir avec moi sur le témoignage d'Anaïs. AGENA, c'est une association amiénoise qui vient en aide aux femmes victimes de violences, qu'elles soient seules ou accompagnées d'enfants. Elle nous parle du sentiment de banalisation des violences évoqué par Anaïs.
Et en fait, je me dis qu'il faut en parler. Et en fait, quand les gens banalisent, c'est qu'en fait, c'est l'effroi qui font que les gens, ils écoutent pas, en fait, parce que ça fait peur et que c'est impossible de penser. Ça me fait vraiment penser à la banalité du mal de Arendt et tout ça. Mais c'est, en fait, oui, la violence, elle est vraiment partout, souvent présente. Et c'est plus on va en parler, que plus tout d'un coup, on sera à même de la dénoncer, en fait, et de soigner les personnes qui sont victimes. Voilà, ça, je pense que c'est important. Même si ça effraie, il faut pas fermer les yeux.
Anaïs a décidé de prendre la parole pour que l'on entende la voix des jeunes sur les violences qu'ils et elles subissent.
Je trouve qu'on en parle, mais effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est que c'est souvent des adultes qui vont en parler, et donc c'est un regard qui est... Je veux dire, les violences intrafamiliales, certes, ça touche des adultes, mais ça touche aussi des enfants qui sont souvent oubliés dans les procès, etc. Parce que quand on parle de mères qui ont été tuées par le père, derrière, il y a des enfants qui ont vu peut-être leur mère se faire tuer, des choses comme ça. Donc c'est des victimes aussi un petit peu collatérales, on va dire, et parfois même directes, parce que je pense qu'on le sait un petit peu tous, mais les parents, voilà, il y en a qui sont très doux et puis d'autres très violents, quoi. Je pense que quand on est adolescent et adolescente, des enfants victimes de violences parentales, on en voit parce qu'on en côtoie et qu'il y en a forcément un qu'on va croiser qui veut nous dire « oui, moi quand je rentre à la maison, ça se passe comme ça » et on fait « ah ».
Donner la parole à la jeunesse, c'est aussi l'occasion de voir l'évolution des idées sur certains sujets de société. Et c'est pour moi l'occasion de poser une simple question à Anaïs. Es-tu féministe ?
Je pense en tout cas, oui. Enfin, oui. Enfin, j'avoue, j'ai du mal à comprendre celles qui disent qu'elles ne le sont pas, quoi. Parce que, je veux dire, en tant que femme, c'est quand même la base d'être féministe, quoi.
Ouais. Très bateau comme réflexion.
Non, mais en vrai, c'est vrai.
Et... pourquoi pour toi, c'est normal? Et pourquoi ça semble si normal chez toi?
Bah, parce que déjà, ma maman, elle m'a toujours fait baigner dans un milieu très féministe, très, très ouvert, etc. Donc ça aide aussi à inculquer cette idée comme normale. Et puis, parce que, enfin, je veux dire, le simple fait de marcher dans la rue, de donner son avis, etc., c'est grâce aux femmes derrière qui se sont soulevées et qu'on dit que bah oh on n'était pas des enfants, qu'on avait le droit de parler.
Exactement.
Donc je trouve ça, voilà, enfin rien que le simple fait d'affirmer ne pas être féministe, finalement c'est grâce aux féministes parce que sinon elles n'auraient pas eu le droit de parler.
C'était des discours qui étaient seulement portés souvent dans les milieux militants en fait, hein. Ça c'est, voilà, c'est les militantes féministes qui disent ça. S'il n'y avait pas eu les féministes avant, on vous aurait pas le droit de vote, etc. Et en fait c'est vraiment chouette d'entendre ce discours là dans cette génération. Là, en effet, à partir depuis qu'en fait on fait de la prévention avec le dispositif En voiture Nina Simone, donc qui est vraiment un dispositif voilà, itinérant d'écoute et d'orientation et d'information, et avec lequel on va souvent dans les établissements scolaires ou dans des lieux qui sont fréquentés par des publics jeunes, on se rend compte que le discours justement sur la question du féminisme, il est beaucoup plus démocratisé. En fait, il n'y a pas de honte à se dire féministe, autant chez les garçons que chez les filles. Et par exemple, qui n'est pas du tout le cas dans ma génération. Enfin, quand moi j'ai commencé à travailler, même à Agena au tout début, j'avais des collègues qui étaient alors, qui étaient extrêmement bienveillants et qui avaient conscience de tout ce qu'ils faisaient. Et toutes les actions qu'ils ou elles posaient étaient profondément féministes. Et pour autant, ils disaient « Ah non, non, mais nous, on n'est carrément pas féministes. » C'était quasiment quelque chose qui était gênant, en fait, d'être... alors même que, voilà, maintenant, tout le monde... je pense. En tout cas, j'espère. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say.
En 2023, les forces de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences conjugales. Selon le ministère de l'Intérieur, 85% des victimes sont des femmes, et les mises en cause sont le plus souvent des hommes, avec 86%. Les violences conjugales sont souvent liées aux violences intrafamiliales, comme nous l'explique Lynn.
La violence intrafamiliale, elle regroupe toutes les violences qui se passent au sein de la cellule familiale. Voilà, la violence conjugale, c'est quelque chose qui est dans la conjugalité. Mais du coup, souvent on dit violence conjugale, violence intrafamiliale, c'est lié en fait. Voilà. Déjà, je voudrais juste revenir sur cette notion-là. C'est vrai que les enfants sont victimes des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Hein, on dit violence conjugale, c'est une violence dans la conjugalité, dans le couple.
C'est vrai.
Mais quand même, très souvent, il y a des enfants, pas très loin. voire même au centre des échanges. Et dans les violences intrafamiliales, forcément, les enfants sont là, donc ils sont vraiment victimes. Et on a mis quand même très longtemps à prendre conscience que les enfants, il fallait les protéger des violences conjugales. Et c'est Dehors Durand, d'ailleurs, voilà, hein, qui fait partie des grands défenseurs des droits de ces enfants. Et même si ça fait très longtemps que dans les structures spécialisées et dans l'aide sociale à l'enfance, il y a des tentatives de protection, jusqu'à présent, l'enfant, il était quand même un peu mis de côté. On disait, c'est une histoire d'adulte, en fait. Alors que nous, on pense, en tout cas à Jenna, et beaucoup maintenant, on pense qu'en fait, c'est pas du tout une histoire d'adulte, c'est une histoire d'agresseurs et de victimes, en fait. Et les victimes sont aussi des enfants, sont aussi les enfants du couple. Donc à partir de là, maintenant, leur parole, elle a autant de valeur que la parole de n'importe qui. Et puis, dans les violences intrafamiliales, vous avez aussi des violences. Alors il y a les violences psychologiques, hein, dont parle Anaïs, mais aussi des violences sexuelles faites aux enfants. Et l'inceste, c'est une violence intrafamiliale, c'est un crime, ça se passe dans les familles.
Quand on est victime de violences intrafamiliales, on est souvent perçu qu'à travers ce prisme-là. Et donc, juste, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui en souffre. Et j'aimerais juste leur dire que ils ne sont pas le reflet de leurs parents. Ce ne sont pas juste des victimes, ce sont avant tout des personnes. Et que, ils arriveront à s'en sortir justement parce que leur vécu ne les définit en rien, quoi.
Parmi tous les types de violences, il y a celles que l'on ne voit pas. La violence psychologique.
Dans ces violences, il y a différents types de violences. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a les violences physiques, qui sont souvent quand même facilement reconnaissables. Parce que c'est des coups, c'est des bleus. Je suis victime de violence, mais ça va, il me frappe pas. Ça, c'est une phrase qui s'annule du début à la fin de la phrase, en effet. Parce que la violence psychologique, elle se voit pas. Mais c'est une violence, en plus, qui est multidimensionnelle. Elle va... et elle dure dans le temps. Parce qu'en fait, un coup, c'est un coup. Hop. Une violence psychologique, c'est une violence qui s'installe. C'est comme ça que l'emprise, elle s'installe. Il y a la peur, il y a la terreur. Et puis ça passe par les humiliations, les insultes, le mépris, l'oubli de l'autre, l'isolement. Il y a tout un tas d'actions, en fait, et d'agressions qui rentrent dans les violences psychologiques. C'est très, très vaste, en fait. On peut appeler les violences verbales, les violences morales. Il y a quelques différents types de définitions, mais ça regroupe tout ça, en fait. Communément, il y a des gens qui disent, c'est des femmes battues. C'est un terme que nous, on n'aime pas du tout. Parce que, il n'y a pas que les coups, il y a tout un tas d'autres coups, en fait, psychiques qui ne se voient pas, en fait. Moi, j'avais souvent pour habitude de dire aux personnes qu'on accompagne au niveau des hébergements d'urgence, par exemple, de dire, la violence physique, elle est là, il y a un bleu, on met un pansement, ça se répare, et puis après, le bleu disparaît. La violence psychologique, en fait, vous voyez, c'est comme un coup qui a été mis avec un coup de burin sur une pierre, en fait. Ça met des siècles avant que le vent et le soleil puissent... limer le trait qui a été mis, et on l'entend, en fait, et en plus, ça se voit pas, parce qu'il n'y a pas de trace, parce que ça se passe dans le regard, ça se passe dans la façon dont on vous a mis dans un espace, dans une pièce, dans une chambre, la façon dont on ne vous adresse pas la parole, la façon dont on se moque de vous en vous disant « non, mais c'est pour rigoler », vous voyez, c'est tout simple. Et en fait, si on n'est pas dans la relation à ce moment-là, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être chargé de violence, en fait. C'est tout comment on touche la personne avec les mots, en fait, et avec la posture.
Déjà, j'aimerais juste dire que la violence psychologique, c'est aussi la violence. Parce que c'est insupportable de devoir se justifier pendant 40 000 heures sur pourquoi est-ce qu'on ne parle plus à tel ou tel parent, alors qu'en fait, la violence, c'est de la violence, peu importe de quelle nature elle est.
Au fur et à mesure de la conversation avec Anaïs, elle me livre son propre témoignage. Celui d'une jeune fille qui a subi la violence d'un père. Mais aussi celui d'une adolescente qui ne veut pas être associée à cet homme violent.
Mon père, il est assez violent. Pas physique, mais très psychologique. Et souvent, cette pression-là de... oh là là, il est comme ça, donc... il avait tendance à faire des grosses colères, on va dire.
Ouais, colérique.
Donc, c'est ça. Mm. Donc, en fait, c'est la pression de... oh, mais si je me mets en colère, alors dans ces cas-là, je suis comme lui. Ou alors, si je fais ça, alors je suis comme lui. Et en fait, il y a parfois des fois où on me disait... oh là là, oui, mais tu t'énerves comme lui. Et en fait, je suis pas mon père. Et d'ailleurs, je pense à mes frères, parce que... on dit souvent que le modèle finalement qu'on a de notre père, ça va définir un petit peu la manière dont on se voit comme homme plus tard. Et en fait, ça me fait trop mal au cœur de me dire que mes frères, ils vont grandir en ayant ce truc-là qu'ils vont les poursuivre, à devoir toujours soit faire l'inverse, soit parfois se dire « oh non, je réagis comme ça, c'est que je réagis comme papa, etc. » Alors que pas du tout, parce qu'on reste des gens. Donc forcément, il y a des fois où on va s'énerver, il y a des fois où on va être... on va pas être doux, gentil ou autre, mais ça veut pas dire qu'on est comme notre parent violent, ça veut juste dire qu'on est nous et que, bah voilà, on réagit de la sorte.
Alors qu'elle n'est qu'une adolescente, elle mène une bataille judiciaire contre son père.
J'ai commencé à penser aux procédures quand j'étais en quatrième. On a commencé à les lancer quand j'étais en troisième. Et après, je suis passée en justice, j'étais en milieu seconde. En fait, la violence psychologique, c'est hyper vicieux parce que pour le prouver, c'est hyper dur. On peut pas prouver à quelqu'un que tel jour il nous a dit ça, que tel jour il nous a dit ci, que... On peut pas. Surtout qu'en plus, il y a toute une période où en fait, il était négligent, sauf que dans ce cas-là, il était juste pas là, quoi. Donc, prouver que quelqu'un n'était pas là, c'est compliqué quand il n'y a pas de photos, quand il n'y a pas de trucs. Donc, il fallait aller au commissariat, il fallait au truc, au machin. Et parfois, au commissariat, enfin, je crache pas sur les policiers, mais bon, parfois, ils sont vraiment pas délicats. Donc, c'est hyper compliqué. Et puis, moi, j'avais vraiment la sensation, je sais qu'il levait pas la main sur moi. Donc, je sais que j'étais pas en danger physique, mais j'avais vraiment la sensation, quand j'y allais, que j'allais mourir. Et après, quand on devait passer devant le juge, il me disait, oui, alors par contre, c'est dans 6 mois. Et j'étais en mode, mais dans 6 mois, je vais mourir dans 6 mois, faut que ce soit maintenant. Tu vois, c'est hyper long. Et que quand on n'est pas en danger de mort physique, ils ont pas de. Comment ? Je sais que pour les enfants, et heureusement, qui sont en danger de mort physique, les procédures, elles vont être beaucoup plus rapides. Mais quand c'est psychologique, c'est long. Et en fait, sur le moment, je veux dire, après coup, je comprends parce que, effectivement, enfin, je veux dire, si on a un couteau sous la gorge, forcément, heureusement que ça va plus vite. Mais après coup, sur le moment, j'étais vraiment en mode, mais c'est pas juste parce que j'ai mal au cœur, moi aussi. C'était dur de fou, surtout que. Fallait le répéter avec des assistantes sociales, avec des avocats, avec des... Enfin, fallait tout le temps répéter la même histoire en boucle. Fallait qu'elle soit crue, fallait qu'elle soit écoutée. Et en fait, surtout en parallèle, mon père, il est au courant de tout parce que, par exemple, quand on va témoigner en tant qu'enfant devant le juge, etc., ils envoient notre témoignage aux deux parents. Donc en fait, mon père, il est au courant de tout ce que j'ai dit, sauf que moi, j'étais absolument pas au courant que ça allait se passer comme ça. Du coup, j'arrive sur place, on me dit « Oui, donc t'es d'accord pour que ton père, il sache ?» Je fais « Oh, j'ai le choix de toute manière !» J'ai pas voulu jouer la carte de « Je te mets pas au courant de ce que je vais dire. » Donc en fait, ce que j'allais dire, il était au courant. Et puis après coup, il s'est fait passer pour le meilleur père du monde. Enfin, même sur le moment, c'est-à-dire qu'il m'a jamais vraiment envoyé de message. Par contre, 3 mois avant le procès, j'avais un message tous les jours. « Bonjour, comment ça va? Ça va bien les cours? Bonjour, comment ça va ?» machin, qu'il a utilisé pour dire « Comme non, vous voyez, madame, ma fille, je la traite très bien. » Et donc en fait, c'est après coup, il se fait passer pour le meilleur père du monde. Là, il y a pas longtemps, il m'a fait « Oui, mais de toute façon, tu m'aimes pas, tu vas pas m'inviter dans ton appartement quand t'auras grandi. » Alors qu'il sait très bien ce qu'il a fait, quoi. Ouais.
C'est extrêmement important, la procédure judiciaire. Vraiment. Le fait de marquer, ça veut dire qu'à un moment donné, la société civile, en fait, elle reconnaît le fait qu'elle a failli à la protection de cette personne. Et donc, du coup, le jugement, la condamnation, et en tout cas, le positionnement de la loi, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a de la violence conjugale, la violence intrafamiliale, c'est tout d'un coup, dans une famille, il y a des règles. Et cette règle-là, c'est le plus fort qui l'applique. Sauf que c'est pas ça. Dans la société, il y a des lois, en fait. Et les lois, elles sont au-dessus des règles de la maison. Et donc, le fait de pouvoir sortir, le fait de pouvoir être reconnu par la loi en tant que victime, eh ben, en fait, ça redonne du sens, ça redonne de l'espace pour respirer. Et ça annihile, en fait, les règles qui se passaient à l'intérieur de cette maison et qui, donc, du coup, étaient les règles de l'agresseur, en fait, au final.
Pour les victimes, le temps de la justice et de la guérison semble souvent interminable.
Le fait d'être partie, c'est un gros soulagement, mais là, ça fait 2 mois que je le vois pas très souvent. Pourtant, dès que ça va moins bien, y a tout ce qui s'est passé qui me revient dans la tête, quoi. Et c'est un peu comme un poids que je traîne, et puis je suis genre, oh, mais non, mais ça fait 2 ans là, stop. Mais en fait, c'est normal, quoi. Et c'est hyper compliqué de. D'arriver à accepter justement ça, parce que on se dit oui, les démarches sont passées, là je le vois plus, etc., donc ça devrait aller. Mais en fait, non, parce que ce qui s'est passé, ça reste dans le cœur, quoi. Donc forcément, ça reste dans le cœur, ça reste dans le cerveau, quoi. Donc on y repense. Quand il y a la situation, on se dit, oh bah c'est bon, alors c'est ok que j'aille mal parce qu'il se passe ça, donc j'ai le droit. Mais une fois que c'est pas, une fois que c'est passé, une fois que ça se voit plus, une fois que là par exemple il crie plus rien du tout, on se dit mince, alors je suis pas censée. En fait, totalement. Enfin. C'est pas un claquement de doigts qu'on efface des années de violence, quelles qu'elles soient.
Ça semble indéfiniment long, parce qu'on a le sentiment que ça y est, une fois qu'on a déposé plainte, ça y est, c'est fini. Et en fait, une fois qu'on a déposé plainte, pour la procédure judiciaire, c'est le début. Parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a le principe du contradictoire, donc forcément, il y a une enquête qui va être menée. Le temps de l'enquête, c'est très long. Pour recueillir toutes ces données, bah, ne serait-ce que ce que je disais tout à l'heure, hein, voir si voilà, il faut qu'on rassemble les preuves, parce que la justice, elle a besoin de preuves. Mais c'est, en fait, c'est normal. Alors peut-être que des fois, ça peut être extrêmement horrible, parce qu'on a le sentiment de devoir se justifier. Mais en même temps, heureusement qu'on a une justice comme ça, et qu'on est contre les justices expéditives qui disent « bon, bah, c'est bon, t'as volé, t'es puni ». Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, et que pour essayer, de mettre la peine à la hauteur en fait du crime, des crimes qui ont été commis, et pour pouvoir identifier un crime, bah, il faut quand même qu'il y ait une enquête. Alors bon, le reste c'est le temps de la justice. Je pense que certainement ça doit être aussi par rapport aux moyens qu'ils ont, etc. Là c'est pas le débat, mais en tout cas oui, c'est un temps qui est très long, et c'est un temps dans lequel des fois les victimes elles baissent les bras parce qu'elles ont le sentiment qu'en fait elles n'ont pas été entendues, du coup. Et c'est pas vrai, ça a été entendu, même quand les plaintes sont classées sans suite. Souvent, les victimes, elles disent « bah ouais, mais bon, du coup, j'ai pas assez d'éléments, ça a été classé sans suite ». C'est vrai, c'est classé sans suite, des fois, les personnes peuvent le vivre comme un rejet, en fait, un mépris des violences. Alors oui, souvent, on dit « c'est insuffisamment caractérisé ». Ça veut pas dire que la plainte, elle a pas été prise en compte. Juste, elle est pas suffisante. Et ben, ça ne nous empêche pas de retourner, redéposer plainte, de ramener des éléments supplémentaires, etc. Ça veut pas dire que, voilà, c'est terminé. Elle est classée. C'est juste que elle est là, dans un coin. Et si jamais il y a d'autres éléments, cette plainte-là, elle pourra revenir sur le devant de la scène et elle pourra être retraitée. C'est un autre fonctionnement. Voilà.
Donc ça ne s'arrête pas là.
Ça ne s'arrête pas là. Mm-hmm. Non. Et il faut s'accrocher. Mais pour ça, il y a des associations. Voilà, on a par exemple, nous, au niveau de l'association Agena, on anime des cafés discussions, des temps de discussion pour les victimes. Alors voilà, on n'en a pas pour les enfants, ni pour les ados. Même si là, à la maison Nina Simone, au niveau de l'université, on a commencé à mettre en place des temps de café-discussion pour les personnes qui ont été victimes de violences intrafamiliales, hein, de jeunes qui ont été victimes de violences intrafamiliales, qui sont étudiants, qui peuvent venir justement discuter. Parce que c'est très important pendant tout ce temps-là de partager ce qu'on a vécu. Parce qu'on a le sentiment, en tout cas les victimes, ce dont elles disent, c'est qu'elles ont le sentiment qu'elles sont seules, que ça n'a pas existé, c'était que dans leur tête. Bah oui, puisque regarde, la police, elle dit plus rien, j'appelle mon avocat, il dit qu'il n'y a rien pour le moment, la justice, elle bouge pas, bon, en fait, il ne s'est rien passé, on ne croit pas du tout. Et donc, le fait d'en discuter avec d'autres personnes qui ont suivi le même parcours, bah, ça permet déjà de donner corps à l'attente, en fait. Et donc, ça, c'est très important, ça peut être soutenant.
Après le combat administratif et judiciaire, où en est Anaïs aujourd'hui dans la relation face à son père? Dans cet entretien croisé, Anaïs et Lynn utilisent le même mot, l'emprise.
Du coup, je le vois toujours, mais suite au procès, heureusement, je le vois une fois tous les deux mois. Donc bon, ça espace, enfin un week-end tous les deux mois. Donc ça espace pas mal, mais je sais que le mieux, ça aurait peut-être été de couper les ponts, mais ça m'était hyper compliqué, surtout qu'en plus, enfin, vu que je suis métisse, ma famille paternelle, elle représente aussi une partie d'une culture auquel j'aurais pas forcément accès si je coupe les ponts, donc c'est compliqué de se dire je coupe les ponts, surtout que là, dans ce cas-là, malheureusement, couper les ponts avec mon père, ça revient à couper les ponts avec tout le monde, puis je me dis, oui, mais si ma grand-mère est décédée, je serais même pas avertie, donc je me dis, bon, c'est essayer de se rendre assez fort, on va dire, émotionnellement pour que, de toute manière, voilà, il n'y ait plus d'emprise, quoi.
Et maintenant, après, il y a aussi le fait de ne plus être en contact. Parce qu'il y a toute la question de l'emprise, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on les victimes, on les conseille. Après, parce qu'elles sont majeures, elles font ce qu'elles veulent. Mais de ne pas être en lien avec l'auteur de violence, le moins possible. De couper le téléphone, de pas parler, de pas répondre. Peut-être même des fois avec la famille. Parce qu'en fait, c'est... L'emprise, c'est pareil, elle vient de partout. Et donc, du coup, la notion de culpabilité, toutes ces choses-là qui ont été mises en place, en fait, par l'auteur... Il lui suffit d'une petite faille pour pouvoir revenir et déstabiliser la victime. Et forcément, à chaque fois que la victime est en contact avec l'auteur de violence, c'est le mécanisme, il se remet en place, en fait. Hein, vous savez, le mécanisme des violences, en fait. Et donc, du coup, il y a de nouveau la terreur qui s'installe, parce qu'on sait comment ça va se passer. Donc, la victime, elle est de nouveau crispée, parce qu'elle anticipe, parce qu'elle sait que peut-être, potentiellement, il suffit d'un mot et elle va repartir, ou elle va tomber, ou elle va avoir peur. Donc, ça c'est très, très important de couper le contact. Maintenant, voilà, ça, c'est très compliqué. Les victimes, une fois qu'elles mettent de la distance ou qu'elles sont plus en contact, elles respirent, en fait. C'est exactement la même chose. Je pense qu'Anaïs, en fait, elle a déposé plainte. Il y a eu un procès, une procédure, il y a eu quelque chose qui a acté, qui a certainement reconnu son statut. Mais à chaque fois qu'elle se retrouve face à son père, en fait, elle se retrouve dans cette situation de victime dans laquelle elle a été. Et souvent, quand il y a des enfants qu'on accompagne, par exemple, ou qu'on voit qui sont victimes de violences intrafamiliales, on se rend compte qu'en fait, que les enfants qui continuent à voir les auteurs de violences, n'y a pas d'amélioration dans leur état. Vous voyez, par exemple, dans les espaces de visite médiatisés. Mmh. On dit, il n'y a pas de violence. Monsieur est très gentil avec les enfants, il n'y a jamais eu de violence. Et les enfants sont très agités, et on se rend compte qu'à chaque visite médiatisée, ils ressortent encore plus agités, encore plus mal. Ça, pour nous, c'est des alertes, en fait. C'est des alertes, c'est-à-dire, en fait, il y a de la violence. Alors, on ne l'a pas vue, peut-être qu'elle n'a pas été verbalisée, c'est certainement de la violence psychologique, ou peut-être de la violence sexuelle, qui n'est pas visible, mais elle existe, parce qu'en fait, les enfants, ils l'expriment. En tout cas, Anaïs, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas bien, elle a peur. Bon, vous voyez, c'est aussi simple que ça, juste par contre ça, il faut le prendre comme une valeur, ça a de la valeur.
Si vous êtes victime ou témoin de violences intrafamiliales, conjugales ou psychologiques, il y a des solutions, qu'elles soient nationales ou locales.
Il y a le 119 déjà, qui est un numéro gratuit, national, d'écoute pour l'enfance maltraitée. Donc ça, c'est vraiment... Et de l'autre côté, il y a des écoutants qui sont formés et qui donc du coup sont vraiment en capacité de prendre l'information et puis après de mettre en place, de faire les signalements nécessaires pour protéger l'enfant. Mais il y a aussi un numéro de téléphone qui est le 114, et en fait c'est pour envoyer des SMS. À la base, c'est un numéro pour les personnes qui peuvent pas s'exprimer, qui ont un handicap, et donc par texto, mais pour autant ce numéro il est accessible à tout le monde en fait. Si jamais on est en situation de danger et qu'on peut pas téléphoner, on peut tout simplement discrètement envoyer un message en disant je suis en danger, etc. Et c'est exactement la même chose qu'un signalement ou de faire le 17 en fait. Ça c'est une chose. Et l'enfant, le mineur peut aussi aller déposer plainte. Souvent on dit bah non, je peux pas déposer plainte parce que bah voilà, c'est ma mère ou mon père, mais en fait non, ta mère et ton père sont les auteurs de violence, mais en fait l'enfant, toute personne peut aller déposer plainte. Maintenant après, pour pouvoir poursuivre la procédure, il faut être représenté, il faut être majeur. Et donc il y a des ad-hocs, il y a des avocats et des ad-hocs qui peuvent être nommés et qu'on peut solliciter. Parce que bien souvent, et c'est très très important par rapport aux droits des enfants, d'avoir des ad-hocs. Parce qu'au final, les parents sont soit les auteurs de violence, donc du coup c'est nul et non avenu, soit sont des personnes qui sont elles-mêmes ou eux-mêmes pris dans l'histoire de violence. Et donc du coup, je pense que chaque victime doit avoir quelqu'un qui l'aide à se défendre et à se protéger.
Des associations comme AGENA et beaucoup d'autres travaillent tous les jours sur le terrain pour venir en aide aux victimes de violences. Les bénévoles et les professionnels ont pour mission de conseiller, d'accueillir, d'héberger et d'écouter la parole des femmes en difficulté, seules ou accompagnées d'enfants.
Alors, AGENA est joignable au 03 22 52 09 52, donc qui est le numéro de les SOS et de l'équipe mobile également. Il faut savoir par contre que nous, ce numéro-là, on ne travaille pas avec les mineurs. Mmh. Au niveau d'AGENA, on travaille avec les mineurs quand ils sont accompagnés de leurs parents. Voilà. Et par contre, le dispositif En voiture Nina Simone, alors ça, on peut nous solliciter en appelant à ce numéro-là aussi, ou bien en contactant sur Internet à ninasimone@agena.org. Et le dispositif peut être mobilisé pour tenir des temps de permanence et d'écoute et d'orientation, pour le coup, pour tout public et partout dans le département de la Somme. Quand on a mis en place, quand on a pris le projet En voiture Nina Simone qui était proposé par la DRDFE, déjà une première chose, c'était qu'on voulait pouvoir aller partout, et notamment en milieu rural, pour expliquer qu'en fait, il existe des solutions pour justement pouvoir parler, dénoncer et sortir des violences, autant pour les enfants que pour les adultes, parce que c'est vrai que le VAN, il accueille tout le monde. Nous, au niveau d'AGENA, on n'accueille que des majeurs, mais dans le dispositif, le VAN, il est pour tout le monde. Donc, il y a déjà cet espace-là. On peut solliciter le dispositif pour avoir un espace où on peut poser, on peut parler. Moi, j'ai déjà fait des signalements aux procureurs d'enfants qui sont venus à l'intérieur du VAN et qui m'ont fait part de violences dont ils étaient victimes, de violences intrafamiliales. Parce qu'après, je suis professionnelle, soumise... à la protection de l'enfant, je suis travailleur social, donc mon écoute, elle est aussi... c'est mon travail, en fait. Mm-hmm. J'écoute, mais pour entendre peut-être quelque chose qui peut-être ne serait pas, n'aurait pas été... que l'enfant n'aurait pas osé dire ailleurs. En fait, là, l'espace, il est aussi pensé pour ça. Et il y a aussi un autre lieu où j'aime beaucoup orienter les enfants, c'est la maison des ados. Donc, il y a une maison des ados sur Amiens, il y en a sur Abbeville, et ils ont aussi des antennes sur Montdidier ou... aussi du côté de Péronne, et ce sont des professionnels, donc des soignants, des éducateurs spécialisés, des médecins, des psychologues, des infirmiers, qui sont aussi spécialisés, et c'est un lieu où on peut aller sans les parents, voilà. Donc ça, c'est important aussi, pour pouvoir, on n'est pas obligé, on peut y aller avec les parents, mais on n'est pas obligé. Et donc, pour parler, et pour dire aussi ce qu'on vit, et peut-être trouver des solutions, une écoute. Après, bien sûr, le premier lieu où il faut aller pour dénoncer, c'est la police. Il faut se rassurer, alors bien sûr, Je souris parce que je pense à Anaïs qui disait que c'était compliqué, voilà. Il y a des formations qui sont données pour les collègues, voilà, d'un commissariat. Je pense que c'est toute une avancée, en fait. Il y a forcément, on n'est pas à la même place. Et donc, le principe du contradictoire dans la justice fait que, ben, quelquefois, on ne va pas forcément prendre pour argent comptant ce qui est dit. Mais plus ça va quand même, ce qui est dit est quand même noté, écouté et pas remis en cause. Parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué dans les dépôts de plainte. C'est de dire, mais vous êtes sûr ? Mais tu sais, si tu dis ça, tu sais, ton père, il va aller en prison. Hein. Et ça, maintenant, enfin, je ne dis pas que ça n'existe plus. Mais en tout cas, il y a des formations qui sont données. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont à même de prendre, voilà, le dépôt de plainte de façon adaptée. Et après, on a petit à petit mis en place des protocoles où la victime, elle est plus obligée de se répéter à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que la victime, si elle est orientée par Agena et qu'elle est prise en charge dans un hébergement d'urgence, ben, en fait, au niveau de l'association, ben voilà, nous, on dit, cette personne, elle est victime de violence conjugale, une procédure en cours, ben c'est tout. On va pas aller chercher à savoir, ah bon, pourquoi, reposer des questions. Ça, c'est un fait. Et on sait à quel point le fait de répéter, c'est une réviviscence et que ça peut aussi conduire à nouveau des états, voilà, de raviver le trauma, en fait. Ça fait très longtemps. Au final, dans la somme, on est tout un tas d'acteurs. En fait, on travaille beaucoup ensemble depuis longtemps. Et notamment, il y a un réseau qui s'appelle le réseau d'acteurs de lutte contre les violences, d'accompagnement et de soutien aux personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Plus ou moins chacun des acteurs qui sont dans ce réseau, en fait, on sait qui fait quoi et qui intervient auprès de qui. Donc, il y a des lieux où, oui, il va falloir dire. Forcément, la première fois, il va falloir raconter. Après, c'est pareil quand on est sollicité en médecine légale. Il va falloir aussi expliquer, parce que, par exemple, la médecine légale, tout ce qui est violence psychologique, les preuves peuvent aussi être déterminées, en fait. Hein, la médecine légale, si elle existe, et donc sont des médecins légistes qui écoutent les victimes, qui observent la façon dont elles parlent, dont elles se, voilà, dont elles se comportent, et c'est des, voilà, qui ont la capacité de pouvoir dire après quel est l'impact de la violence, et qui n'est pas juste la taille du bleu, en fait. Hein, c'est la taille du bleu qui ne se voit pas, mais qui est dans la tête. Enfin, si les médecins ils m'entendaient, ils diraient n'importe quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique aux enfants et des fois, ça marche.
Je souhaite remercier Lynn Rodian de l'association Agena et Anaïs d'avoir livré son témoignage sans détour, avec beaucoup de rire et une parole libérée. Je laisse le mot de la fin à Lynn.
Bien souvent, on se dit, oh là là, on peut pas en rire, ou bien c'est gênant, en fait. Les personnes qui sont victimes, ou les victimes, ou les femmes, du coup, en général, ou... En tout cas, les personnes qui sont agressées, bien souvent, elles ont honte parce qu'elles ont le sentiment qu'en fait, c'est à cause d'elles que toutes ces agressions, ces insultes et ces violences se sont arrivées. Et donc, toutes ces histoires qui passent maintenant et tous les procès qui nous permettent de dire la honte doit changer de camp, c'est vrai, en fait. C'est à nous de rire du fait que ce soit impossible de penser qu'on puisse être aussi, aussi stupide, aussi violent, aussi agressif. Et je pense que c'est, ouais, la honte, elle est pas chez nous, quoi. C'est à nous d'en rire.
Ce premier épisode de notre podcast « Maintenant, on écoute » a été réalisé par Aline Lafoy. We show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. We show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. We show them heroes. Feel it. We are the younger and the hunger. Holy water, crying at the altar. Ignite your desire. Freedom from the Maya, Maya. Writing.
can never break our story now. Nah. My son show them passion. Your history walk through them golden lines. Your blood carries diamonds. When they fought, they cleared that spirit away. We are the reincarnation.
My spell made up. Would work your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic.